VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, a alerté aujourd'hui sur le risque d'un nombre de morts massives provoquées par la famine dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria et au Yémen, alors que la sécheresse frappe une partie du continent africain. L'ONU lance cet avertissement à la lumière des sécheresses qui affectent également de nombreux pays voisins et de la pénurie de financement devenue si grave qu'une crise humanitaire qui aurait pu être évité, peut-être, puis que celle de 2011 est en train de devenir inévitable, a déclaré un porte-parole du HCR, Adrien Edouard, lors d'un point de presse aujourd'hui à Genève. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a demandé aujourd'hui aux députés du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir d'agir dans l'intérêt du peuple et non du parti, à une semaine d'un vote de défiance au Parlement contre Jacob Zuma, l'actuel chef de l'État. Jacob Zuma, embourbé depuis des mois dans de nombreux scandales, traverse une nouvelle tempête politique depuis fin mars après un remaniement ministériel controversé. L'opposition a demandé l'organisation d'un vote de défiance devant le Parlement et ce sera le 18 avril contre le chef de l'État. Deux Turcs travaillant pour une société de construction ont été enlevés par des inconnus dans leur hôtel dans la région pétrolifère du sud du Nigeria, a annoncé aujourd'hui la police nigériane. Les deux hommes sont des employés de la société BKS Construction, basée à Ona, dans la région pétrolifère du Delta du Niger. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué ces enlèvements. Une opération de police était en cours pour retrouver les deux ressortissants turcs. En République centrafricaine, les groupes armés ont occupé, pillé et endommagé des écoles, empêchant des milliers d'enfants d'être scolarisés. C'est ce qui ressort d'un rapport de Human Rights Watch. L'école primaire Saint-François, par exemple à Bangui, a été occupée par des milices anti-Balaka de 2013 à 2015. Selon son directeur, Edouard Perret, vous allez l'entendre, ils avaient tout cassé et donné des armes aux élèves.
Ils détruisent tout ce qui est matériel. Donc, ils ont cassé les tables bancs. Lorsqu'on passait dans les classes, il y a beaucoup de salles de classe qui n'ont pas de table banc. Les enfants, ça c'est à même le sol. Ils ont cassé les bureaux, ils ont cassé notre bibliothèque d'ailleurs. Ils ont emporté tous les livres. Ils ont mis l'école dans un état de délabrement vraiment regrettable.
Brazzavillois et Quinois attendent toujours d'être liés par un pont, ce qui serait la réalisation d'un vieux projet. Les autorités des deux pays remettent le projet à flot, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Ngula Ngusu.
Dans certains milieux puristes et conservateurs à Brazzaville, on pense que ce pont route-rail sera l'occasion de se faire envahir par les Quinois, qui sont déjà très nombreux sur la rive droite du fleuve. Mais Klesh Atipo, le premier secrétaire de la mairie de Brazzaville, croit plutôt au profit que tireront les deux villes de cet ouvrage.
Pendant un moment, on se dit, bon, ils sont plus nombreux, puisque nous, à 1,5 million et eux à plus de 7 millions. Mais l'afflux, ça ne fait pas mal, tant que ça peut arranger les deux peuples. Je pense que c'est une bonne affaire.
Alphonse Ndongo, un économiste, explique d'ailleurs que Brazzaville s'en tirera bien face à un marché très dollarisé à Kinshasa.
Le Congo est le point de passage pour les autres pays de la zone CEMAC pour la RDC. Donc, ils sont à la recherche des devises en francs CFA, mais nous aussi, il faut le reconnaître que l'économie de Kinshasa est une économie dollarisée. Donc, c'est quelque chose qui, éventuellement, aussi peut nous faire entrer des devises, parce que ces échanges ne vont pas s'effectuer en francs congolais ou en francs burundais, n'est-ce pas? Si nos économistes et ceux qui ont en charge la faisabilité de ce projet examinent les choses de fond en comble, c'est pour nous une meilleure ressource aussi.
Il faut de la patience, car la volonté politique de Brazzaville et de Kinshasa compte dans la réalisation de ce projet route rail. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, qui se réunit en mai prochain, examinera le budget des 51 milliards prévus pour les débuts des travaux de l'ouvrage. Au bord du fleuve Congo, Nguela Ngusu, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, détresse des producteurs de cacao dont les cours sont en ce moment à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Toukara, est allé à la rencontre des paysans qui font face à une situation très difficile.
Tous les magasins d'Abidjan sont remplis de cacao. La perte est énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 tonnes qui est entre les mains des paysans. On ne sait pas quoi faire avec.
Du cacao, les paysans ivoiriens en ont en grande quantité sous la main et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans des zones produites productrices ou simplement aux ports d'Abidjan ou de San Pedro. Plus de 30% de baisse des cours sur le marché international depuis octobre dernier. Les conséquences sont ici visibles. Kwame Kwame Jean, producteur à Divo, à 190 km d'Abidjan.
Le cacao, on ne sait pas comment on va vendre. Ils sont venus, ils ont décidé de donner ça à 700. On m'a dit quoi? On a accepté. Pour ne pas que ça reste encore à la base. Actuellement, le cacao est encore sous la main des planteurs.
De 1100 francs CFA le kilogramme, le prix d'achat du cacao aux planteurs est passé à 700 francs le 30 mars dernier. Une chute qui amène de nombreux producteurs à se tourner vers le Ghana voisin. Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI.
Aujourd'hui, à la frontière du Ghana, les Indiens qui étaient au Ghana, ils viennent acheter le cacao en Côte d'Ivoire. Ils prennent le kilogramme 950 francs le kilo. Pendant que le prix est fixé ici à 700 francs, pourquoi il n'y a pas blocage au Ghana? Pourquoi il n'y a pas blocage au Cameroun?
Preuve du malaise qui secoue la filière, des producteurs ont manifesté le 17 février dernier à Abidjan avant d'être dispersés par la police. En outre, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI, a décidé d'intenter une action en justice à l'encontre du Conseil du Café Cacao, le CCC, l'organe de régulation de la filière. Le CCC est notamment chargé de la gestion d'un fonds de réserve créé en 2012 par l'État pour indemniser les paysans en cas de chute des prix du café et du cacao.
Le cacao est prix fixé 1100 francs garanti. C'est le même cacao qui est revendu sur le marché mondial avec Conseil Café Cacao 1805 francs. Et donc cet argent qu'ils prennent après avoir enlevé droit unique de sortie de l'État et le revenu que les gens gardent en cas de chute du prix, et ces fonds-là, on nous a toujours dit que ça est là, mais on n'a jamais vu. C'est pour ça qu'on porte plainte.
Boti Bizoua est le président du conseil d'administration de l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Il dénonce lui aussi la mauvaise organisation de la filière.
Une organisation qui échappe aux producteurs eux-mêmes, qui infantilise les producteurs.
Nos tentatives pour avoir des responsables du conseil café-cacao sont restées infructueuses. Le cacao, c'est 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Le Soudan a imposé des visas d'entrée aux hommes égyptiens âgés de 18 à 50 ans afin d'empêcher l'infiltration terroriste, a annoncé à la presse le ministre soudanais des Affaires étrangères. La mesure prise vendredi ne concerne pas les Égyptiennes, les femmes. La presse soudanaise explique que les autorités auraient vraisemblablement imposé cette mesure après l'arrestation de plusieurs ressortissants de pays arabes à la suite d'une explosion survenue dans un appartement de la capitale au mois de février. Des centaines de chrétiens coptes ont enterré lundi les victimes d'attentats contre les églises en Égypte le jour de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence décrété après ces attaques qui ont fait 45 morts. Le groupe djihadiste État islamique, qui a menacé de multiplier les attaques contre la communauté chrétienne en Égypte, a revendiqué ces attentats menés dimanche en pleine célébration des rameaux à Alexandrie et attentats dans le nord du pays. Ces violences sont survenues à quelques semaines de la visite du pape catholique François, qui a décidé néanmoins de maintenir son déplacement au Caire les 28 et 29 avril prochains. Le juge Neil Gorsuch a prêté serment hier à la Maison Blanche, ici aux États-Unis, sa dernière étape avant de siéger à la Cour suprême des États-Unis, qu'il va faire basculer du côté conservateur. Chérubin Dorsil.
Nous sommes réunis ici pour un moment historique, a lancé le président Donald Trump en rendant hommage à l'intégrité incontestable du magistrat, ses propres termes. Neil Gorsuch a prêté serment, la main gauche posée sur une Bible tenue par son épouse. Il a promis d'être un serviteur fidèle de la Constitution et des lois américaines et s'est engagé à servir l'idéal de justice avec impartialité et les mêmes égards pour les riches et les pauvres. Deux heures auparavant, il avait prêté un premier serment à la Cour suprême. Le juge Gorsuch, 49 ans, est le plus jeune magistrat nommé à l'instance suprême en un quart de siècle. Il devient le 9e juge nommé à vie qui va faire basculer l'institution sous l'aile des conservateurs. Il pourra siéger dès la semaine prochaine.
Le principal suspect de l'attentat au camion bélier qui a fait 4 morts à Stockholm, un Ouzbek aux sympathies djihadistes, reconnaît avoir commis un acte terroriste, a déclaré son avocat aujourd'hui devant un tribunal. Rakhmat Akilov, un ouvrier en situation illégale de 39 ans, est soupçonné d'avoir percuté vendredi après-midi au volant d'un camion volé une vingtaine de piétons sur l'artère commerçante la plus fréquentée de Stockholm, tuant 4 personnes et en blessant 15 autres. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisca. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. Merci pour votre fidélité. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.